Hervé Richardot, bonjour.
Bonjour Claire.
Hervé, vous êtes comédien, mais aussi directeur artistique et metteur en scène à la compagnie Instant. En ces temps de crise sanitaire, vous serez pourtant sur scène vendredi 26 mars à Loudéac pour deux représentations du spectacle Le jeu de l'amour et du hasard à destination des élèves de 4e de collège. Dans cette ambiance morose pour le spectacle vivant, Hervé, vous nous citez une phrase de Boris Cyrulnik. Je me permets de la citer. L'éducation et la culture, le cinéma, le théâtre sont fondamentales parce que j'aurais du mal à vous dire ce qu'il m'est arrivé. L'émotion sera trop forte et j'aurais peur de vous blesser ou de vous mettre mal à l'aise. En revanche, je vais vous dire, allez voir ce film, on va en parler. Et c'est le comédien qui va mettre en scène mon problème que je n'ose pas dire et cette distance affective va permettre de parler. C'était le théâtre de la Grèce ancienne. Les comédiens devaient mettre en scène les problèmes de la cité, mais ensuite les citoyens devaient en parler. Fin de citation.
Alors c'est une interview en fait très récente hein, qui est passée à la télé, je ne citerai pas pour ne pas faire de la pub, et j'ai pris le temps de réécouter la totalité, parce que la totalité de l'interview est d'une grande richesse, comme très souvent les interventions de Boris Cyrulnik, et je trouvais qu'il y avait là quelque chose qui résumait ce que pouvait être l'acte théâtral. C'est-à-dire qu'on l'a beaucoup cantonné ces dernières années. Je crois que les artistes, nous avons tous une responsabilité par rapport à ça, dans le divertissement, en oubliant cette dimension de mise à distance. Aller voir un spectacle, c'est peut-être l'occasion de mettre à distance ses propres émotions, de pouvoir ensuite en échanger avec d'autres et du coup de cheminer, de pouvoir grandir, de pouvoir évoluer, de cheminer pour peut-être apprendre à savoir qui je suis, on va le dire comme ça. Donc ce n'est pas le seul support, bien sûr, mais c'est un support qui peut énormément accompagner l'individu.
Et en cette période justement où on se cherche un peu, c'est important.
Ah, c'est essentiel. Sans mauvais jeu de mots. Déjà, il faut quand même rappeler que c'est possible, là, ces deux représentations dans le cadre de la saison culturelle du Palais des Congrès, suite à une décision de la préfecture des Côtes d'Armor, qui est relative en fait à l'ouverture des ERP au public scolaire. Hein. C'est une décision qui est nationale. C'est aussi un engagement des élus de la ville de Loudéac et c'est l'engagement du directeur du Palais des Congrès et de la culture, Pascal Blévin, qui a mis en place toute une série d'actions autour de ce spectacle, Le jeu de l'amour et du hasard. C'est-à-dire qu'il m'a demandé d'aller à la rencontre, dans un premier temps, des élèves au sein des établissements scolaires et donc de permettre peut-être à ces ados de voir le lien qui peut exister entre les personnages écrits par Marivaux et puis leur vie d'aujourd'hui. Ça, c'est très important. Et pour répondre à votre question, Claire, oui, ça me semble essentiel parce que finalement, Marivaux, Le jeu de l'amour et du hasard, ça nous parle de quoi ? Ça nous parle d'une femme qui, dès le démarrage d'un spectacle, d'une pièce, est amenée, logiquement, à épouser quelqu'un pour qui elle est promise. Et cette femme, dès le début de la pièce, elle dit « Eh bien non, moi, je ne vais pas me marier avec quelqu'un que je ne connais pas. Donc, je veux savoir qui est cet homme. » Parce qu'il peut être très charmant physiquement, et puis finalement, quand on voit comment il est dans la sphère privée, je vais très vite déchanter par rapport au charme qu'il aura suscité au démarrage de notre rencontre. Donc elle demande à son père l'autorisation de l'observer, et elle utilise pour cela un stratagème, c'est de se déguiser en servante, pour pouvoir l'observer tranquillement sans qu'elle soit engagée sur un plan émotionnel. Très intéressant. Elle est très moderne. Cette femme est très moderne. C'est-à-dire que dès le départ, elle dit pour s'engager avec quelqu'un, il faut que je sois pleinement dans l'action, on va dire, et sur le plan émotionnel, et sur le plan intellectuel, et sur le plan du désir, sur le plan corporel également. Donc son père lui donne l'autorisation, ça c'est très très moderne également aussi. Et là où je trouvais que c'était intéressant par rapport aux ados, c'est qu'on voit là avec l'actualité qui nous est donnée de suivre, actualité triste, on voit des histoires d'amour qui se terminent par une jeune fille qui est balancée dans la Seine parce que le garçon n'a pas digéré la rupture. On voit sur les réseaux sociaux des règlements de compte. Nous, on le constate souvent hein, quand on va faire des actions par le théâtre interactif, le théâtre forum au sein des établissements scolaires. Alors, c'est exacerbé toute cette, tout ce mal-être, on va dire, entre guillemets, qui était déjà présent hein, depuis des années. Pour certains, ça fait partie de la transition qui est liée à l'âge de l'adolescence, tester les limites, voir jusqu'où je peux aller, etc. Mais là, ça s'est renforcé avec la crise sanitaire, puisque les ados, en dehors de l'école, n'ont pas d'espace pour canaliser leur énergie, canaliser leurs envies, se confronter aux autres, être au sein du groupe, vivre ensemble, tout simplement. Donc on voit que ces phénomènes-là s'accentuent. Et je crois qu'il est important de porter une réflexion sur cette relation amoureuse. Permettre aux ados de comprendre que à travers un texte classique, c'est pour ça que je vous ai cité la phrase de Boris Cyrulnik, eh ben, je peux mettre à distance ce que moi je ressens dans mes ébullitions, on va dire, d'adolescent, mes premiers émois, mes désirs, etc. Et peut-être cheminer, réfléchir sur ce qu'est la relation amoureuse. C'est le propre du théâtre, véritablement.
Et vous avez l'habitude, Hervé, puisque vous intervenez hein, dans les lycées pour... Bon, là, on parle de cette pièce en particulier, mais il y a d'autres, il y a même du théâtre forum que vous proposez.
C'est ça. Alors, depuis le départ, pour la compagnie Instant et pour moi, bah, vous le savez, hein, le cheval de bataille, c'est d'aller à la rencontre des publics. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... On emploie même un terme, moi, qui me fait un peu frémir, qui s'appelle les publics empêchés. On considère que toute une partie de la population, on l'a presque acceptée, finalement, eh ben, elle pense que le théâtre n'est pas pour elle, cette partie de la population, et on l'accepte. Est-ce qu'on doit continuer de l'accepter ? Avec les conséquences qu'on voit, c'est-à-dire qu'évidemment, si je n'ai pas la possibilité de mettre à distance mes propres émotions, notamment par le biais du spectacle vivant, qu'est-ce qui va se manifester en moi ? Mon animalité, ma violence, mon besoin de tester mes limites, encore une fois, sans cadre, sans repère. Donc évidemment, aller à la rencontre des publics, leur permettre, par le biais notamment du théâtre forum, mais c'est la même chose que ce soit du théâtre forum ou du théâtre classique, finalement, tout ça est un jeu d'étiquette et n'a pas réellement d'importance. Ce qui est important, c'est le fond, tout le temps. Donc, aller à la rencontre des publics, permettre aux adolescents de mettre leurs émotions à distance, voilà la mission qui est celle de la compagnie Instant et que je porte depuis 2011 que je suis directeur de la compagnie Instant. Thank you.
Après la Campanella de Paganini, retrouvons Hervé Richardot, comédien, metteur en scène et directeur de la compagnie Instant. Il nous parle du spectacle de Marivaux, Le jeu de l'amour et du hasard, qui sera donné aux collégiens de Loudéac vendredi 26 mars. Hervé, ce spectacle de Marivaux, la mise en scène, elle a été réalisée en fonction de votre public ou pas ?
Alors, la première question que je me pose, moi, c'est pas de répondre à une pseudo-demande du public. D'ailleurs, qui je serais pour pouvoir imaginer ce que le public pense ou imagine ? Non. Donc, essayez tout le temps d'être porteur de questions. Voilà le rôle que je pense être le mien. C'est-à-dire à travers une mise en scène, proposer, et à travers la scénographie aussi, on pourra en parler un peu, proposer une réflexion qui permette au public de cheminer. Non pas asséner des vérités, on n'est pas là pour ça, et puis les vérités, on n'en a pas en vérité, hein, disons les choses clairement. Hein. On est tout le temps en train de chercher, tout le temps en train de cheminer. Là où c'est très intéressant cette histoire de questionnement, c'est que le questionnement met en mouvement. Quand je me pose des questions, je suis en mouvement. Je ne suis pas arrêté sur des certitudes. C'est le piège, finalement, de l'humain. C'est de ranger ses pensées dans des petits tiroirs dans son esprit, en collant des étiquettes. Et je suis arrêté sur ces certitudes-là. Et le piège de ces certitudes-là, évidemment, c'est le fanatisme, c'est les excès. Dans tous les domaines, on le voit. Tous les domaines. Si je suis persuadé d'avoir raison, si je n'interroge pas mon positionnement, est-ce que j'ai la possibilité de progresser ?
Mais les collégiens sont à même de comprendre ce questionnement.
Évidemment. Et c'est une façon d'aborder. Ça, c'est très important ce que vous êtes en train de dire. On était à Guémené-sur-Scorff la semaine dernière. Le chef d'établissement, ils avaient décidé, je trouvais que c'était plutôt une bonne initiative, que les enseignants ne seraient pas là pour laisser la parole de l'adolescent libre. Le chef d'établissement, qui est un homme adorable, qui vient d'arriver cette année, vraiment un monsieur de grande qualité, a fait des allers-retours pour aller voir et il a été surpris de la profondeur de ses élèves. Il a entendu des réflexions de la bouche de ses élèves qu'il n'aurait pas soupçonné. Il a posté, que j'ai partagé ce matin sur la page Facebook de la compagnie, il a posté un commentaire sur ce qui a été fait la semaine dernière à Guémené. Voilà, moi je crois que c'est une façon d'amener les questions, c'est-à-dire que soit on considère que les adolescents sont des bébés, des imbéciles, etc., et puis on leur assène des vérités, soit on les met en mouvement, c'est vraiment le principe du théâtre forum, hein. C'est-à-dire les questionner, est-ce que vous trouvez ça normal ? Les situations qui sont présentées à chaque fois dans le théâtre forum sont des histoires vraies, c'est très important, donc évidemment ça fait écho et ça fait résonance, est-ce que vous trouvez ça normal ? Pourquoi ? Etc. Et on voit comment les ados sont capables de cheminer sur le sens de la responsabilité, sur le piège. Ils le disent. Hein. Parfois, je me fais avoir par le regard que les autres portent sur moi. Je suis tellement attaché à ma dépendance au regard des autres. J'ai tellement envie d'appartenir à un groupe que finalement, je n'arrive pas à me positionner, je n'arrive pas à dire qui je suis parce que j'ai peur d'être rejeté par l'autre. Vous voyez, moi je connais des adultes qui vivent cette dépendance à la considération intérieure, employons ce terme-là si vous voulez bien pour parler de ça, et qui ne l'ont jamais observé. Ils sont esclaves de ça et ils ne l'ont pas observé. Donc moi je crois que les ados ont cette maturité-là. Tout est question de façon d'aborder les choses. Et c'est pareil avec un texte classique, vous parliez de la mise en scène tout à l'heure. Dans la mise en scène, il faut prendre le temps aussi d'accompagner les publics. Hein. Je vais quand même dire ça parce que c'est très important. Ça veut dire quoi accompagner les publics ? Déjà, en amont, aller à la rencontre des spectateurs. Ça veut dire que, évidemment, on sait que nos ados ont des idées arrêtées sur le théâtre, pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire que pour beaucoup, on leur a dit « le théâtre, c'est pas pour toi ben, ». Ils considèrent que le théâtre, c'est pas pour eux. Voir que c'est chiant, voir que c'est pour les vieux, les intellos, etc. Donc au démarrage, ils sont bourrés d'idées reçues. Quand on arrive dans les classes, avant le spectacle, là je parle véritablement, d'où l'importance du travail de Pascal Blévin, de faire du travail en amont, du maillage territorial. Ça, il n'y a que les compagnies locales qui peuvent le faire. Hein. Les compagnies nationales, elles viennent jouer puis elles repartent. Elles n'ont pas le temps, très rarement. Ça, c'est la première chose. Donc, aller à la rencontre des publics, essayer de casser les idées reçues en leur faisant comprendre quelles sont les résonances dans un texte classique par rapport à leur vie de jeune femme et de jeune homme. L'histoire de l'amour, l'histoire de la capacité pour la femme de se positionner et de dire « là, je suis d'accord, là, je suis pas d'accord ». C'est étonnamment d'actualité, tout ça. Hein. On en entend parler tous les jours, hein. Cette histoire d'être au départ dans un rapport amoureux, dans quelque chose qui est du domaine du désir, de la pulsion. on ne s'en rend pas compte au départ. Quand on s'engage dans nos premières relations de manière toute naïve, j'ai envie de dire, joliment naïve, eh ben, on ne sait pas pour quelle raison. Pourquoi je suis tombé amoureux d'elle, pourquoi je suis tombé amoureux de lui. Parfois, on se rend compte après qu'au départ, eh ben, c'était quelque chose d'instinctif, une pulsion. Et après, chacun en a fait l'expérience. Hein. Quand on est dans la vie de couple, au quotidien, etc., au départ, le désir qui était là, il finit un peu par s'émousser. Donc, s'il n'y a que ça, ça ne va pas fonctionner longtemps. Mais si je n'ai pas regardé tout ça, est-ce que je vais pouvoir avancer dans ma conception du couple, dans mon positionnement par rapport à ce couple, dans la façon dont je peux être pris dans un jeu de l'amour et du hasard? On est à fond dans les thématiques qui concernent les ados.
Alors justement, sur scène, ça se passe comment, Hervé? C'est l'histoire de quiproquo, hein, Sylvia et Dorante, et puis les deux autres personnages.
Lisette
donc,
et Arlequin. Voilà. Lisette et Arlequin, parce qu'en fait, ça c'est la magie de Marivaux est extraordinaire, parce qu'il propose un texte qui semble d'une grande légèreté, avec des ressorts comiques, une rythmique très, très dynamique. Hein. C'est souvent là, le comique, il est là. Hein. Plus vous êtes dans quelque chose de rythmé, plus, effectivement, le rire va venir chez le public. Et malgré tout, derrière tout ça, il y a du fond. L'astuce, c'est que Sylvia donc, demande la possibilité de se faire passer pour sa servante, pour observer son prétendant. Sauf qu'elle ne sait pas que lui, il a demandé la même chose à son père. Ce qui fait que quand elle va arriver, elle tombe sur ce gars-là. C'est-à-dire que celui qui est censé représenter le maître, c'est Arlequin qui est déguisé en maître, en vérité, il n'attire pas du tout. Évidemment. Pourquoi il n'attire pas du tout? C'est là où c'est intéressant. Parce qu'il ne respecte pas les codes. Sylvia a été élevée dans une éducation de noble. Donc elle a des codes de noble. Quant à la bienséance, dans la façon dont un homme doit s'adresser à une femme, la distance qu'ils doivent avoir entre eux, la qualité du langage. Arlequin, il a beau essayer de jouer le noble, il n'a pas tout ça. Et dès le départ, elle trouve Arlequin extrêmement repoussant et elle est attirée par celui qu'elle croit être le valet, c'est Dorante. Donc Marivaux, il nous dit, à travers ce texte, finalement, est-ce qu'on n'est pas conditionné par notre éducation? Est-ce que tous les schémas qu'on a reçus depuis notre enfance, le milieu social dans lequel on vit, celui dans lequel on a évolué, est-ce que ça ne conditionne pas notre rapport à l'autre? Et du coup, dans notre façon de voir l'autre, celui qui ne correspond pas à nos codes, est-ce qu'on va rentrer en contact avec lui? Ça va être compliqué quand même. Okay? Donc ça, c'est important. Donc on a joué beaucoup là-dessus. Moi, ce qui me semblait important dans la mise en scène, c'était de travailler sur trois espaces. Là, je vais être obligé de modifier un tout petit peu ma mise en scène sur le début. Logiquement, mes deux comédiennes arrivent de la salle. Alors, pourquoi elles arrivent de la salle? Parce qu'elles épousent le parti pris du spectateur. Donc, on se place au niveau du spectateur et progressivement, en montant sur scène, on plonge le spectateur dans l'histoire. Là, je vais être obligé de modifier un peu parce que les règles sanitaires qui vont être mises en place vont être drastiques. C'est à ce prix-là que le spectacle peut être joué et je crois que le message qui est porté par ce spectacle est suffisamment important pour qu'on respecte ces conditions drastiques et que ça puisse exister. Donc, c'est la première étape, c'est ça, premier espace. Ensuite, on a un rideau qui s'ouvre et qui s'ouvre sur deux grandes portes avec des miroirs. Très important. Parce qu'en fait, tout ce qui est proposé dans la pièce, c'est de voir tout ce dont je viens de parler, mon conditionnement éducatif, ce que je prends pour de l'amour au départ qui peut être simplement qu'un désir pulsionnel. Si je n'ai pas vu tout ça, est-ce que je peux m'engager sincèrement dans une relation amoureuse? Non, c'est une part mécanique de moi qui va s'engager. Et puis quand je vais voir l'autre tel qu'il est véritablement, je vais déchanter et puis je vais le quitter. On connaît ça par cœur, tous. Ok? Donc, deuxième étape, les miroirs. Les personnages sont mis face à leurs reflets jusqu'au moment où ils se sont dépouillés de leurs oripeaux. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans la pièce, on peut raconter, parce que ce ne sera pas ouvert au grand public, où les personnages avouent qu'ils sont maîtres, avouent qu'ils sont valets. Et là, les deux portes vitrées chargées de miroirs s'ouvrent et on rentre dans un petit espace qui symbolise finalement sans doute la profondeur du cœur, ce qui est sans masque, ce qui est sans farce, ce qui est débarrassé des conventions sociales, qui est débarrassé des pulsions instinctives, etc. Juste le sentiment d'affection profonde d'un être pour un autre. Voilà, donc trois espaces. Alors tout ça, c'est un langage symbolique. Hein. C'est-à-dire qu'évidemment, là, je vous l'explique, je vous le décortique, j'en fais presque quelque chose d'intellectuel qui n'est pas vraiment intéressant. Ce qui est intéressant pour le spectateur, c'est de recevoir les impressions dont je suis en train de vous parler. Et chacun le reçoit au niveau où il est, au moment où il regarde le spectacle. Après, on aura un bord de scène sur lequel on échangera un peu sur la scénographie, pourquoi les parties prises de mise en scène, etc., et donner quelques clés aux spectateurs. Mais le but, c'est pas d'en faire lettre morte, une réflexion intellectuelle, encore une fois, qu'on mettrait dans un petit tiroir avec une étiquette et après, c'est fini. C'est de questionner sur tout ça.
Hervé, donc là, ce sera pour les collégiens. Le public, le grand public ne sera pas autorisé à y assister.
Malheureusement.
C'est comme ça. Mais est-ce que... dans l'avenir, on pourra y assister plus tard.
Alors là, je ne suis pas devin.
Ça, c'est
Je ne suis pas devin. Au Palais des Congrès, sans doute que non, disons les choses clairement. Mmh. Au départ, c'était un spectacle qui devait être programmé sur la saison 2019-2020. On devait jouer en mars, je crois, 2020. Ça fait 5 fois qu'il repousse, Pascal. Mmh. 5 fois. Donc, alors, la grande difficulté que rencontre le directeur de théâtre, il faut en prendre conscience. Je ne sais pas si le grand public en a conscience, donc je vous remercie de me poser cette question parce que ça me permet humblement d'être leur porte-parole. C'est qu'ils ont des spectacles qui se bousculent au portillon. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de repousser les dates quand c'est possible avec les compagnies. Les compagnies ne sont pas tout le temps disponibles non plus. Et là-dessus, évidemment, il y a toute une série de spectacles qui arrivent parce qu'on a dit aux artistes « continuez à créer ». Bah, super, hein. Ce qui est effectivement super hein, d'avoir pu continuer à créer, répéter, etc. Génial. Sauf que bah, il faut bien les montrer, ces spectacles-là. Donc à un moment donné, ça va se bousculer au portillon. Vous voyez ? Alors, pour le Palais des Congrès et de la Culture, et pour répondre clairement à votre question, il y a la présentation scolaire. Au départ, on devait faire une scolaire, une tout publique. Finalement, on fera 2 scolaires, ce qui permettra de respecter des jauges extrêmement réduites avec les distances de sécurité, le protocole sanitaire, le non-brassage des classes, etc. Vraiment, on mettra un protocole extrêmement rigoureux, quoi. Et puis après, le jeu de l'amour et du hasard, j'espère qu'il sera proposé à d'autres spectacles. Je crois que les questions qui sont portées, en tous les cas, sont porteuses de sens. Et que c'est peut-être intéressant pour chacun de nous de se poser ces questions-là, au-delà même de l'adolescence. Donc, il a bien tourné, le jeu de l'amour et du hasard, parce que ça fait longtemps que ce spectacle a été créé, mais il est encore d'actualité. Hein. Vous voyez, ça, c'est aussi quelque chose qui me questionne un peu, cette idée, finalement, qu'on est dans le renouveau tout le temps. Donc, il faut absolument qu'on soit dans la nouveauté. Alors que parfois, un spectacle qui a été monté il y a quelques années... Si ce spectacle continue de porter des questions qui résonnent, et peut-être encore plus fort maintenant, parce qu'au départ, on n'avait pas compris cette résonance-là, parce que les gens n'étaient pas mis en relation avec les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui. Peut-être que ce spectacle-là, ça vaut le coup de continuer à le porter. Nous, on continuera à le proposer, et après, à la grâce.
Mais au niveau de la compagnie, Instant, je suppose que vous êtes aussi pour les... projet, c'est compliqué aujourd'hui de se projeter.
Ce qui est important, moi, je crois, c'est d'être dans une action, je dirais, qui soit réfléchie, qui soit pensée. Donc, on est dans un contexte particulier. Il faut composer avec ce contexte-là. Comment on peut réfléchir aux façons de continuer à aller à la rencontre des publics? Comment on peut continuer de considérer qu'il n'y a pas de public empêché, il n'y a que des porteurs de messages qui savent ou non porter un message auprès de certains publics et leur faire prendre conscience de la nécessité du spectacle vivant. Voilà toutes les questions qui m'habitent. Et donc nous, on continue à travailler. Je remercie chaque jour la Providence du nombre de dates qu'il nous est donné de faire, des multiples partenariats aussi avec les institutions, parce que ça ne se construit pas tout seul, toutes ces histoires-là. Alors évidemment, nous sommes impactés comme toutes les autres compagnies. On a moins de dates cette saison qu'on en a eu les saisons précédentes. Maintenant, soyons quand même très, très reconnaissants et très humbles en disant qu'on tourne beaucoup. Par rapport à d'autres compagnies. On a une chance formidable. Donc évidemment, on continue à préparer des projets. Je ne vais pas vous en parler dans le détail, mais il y a des choses qui se réfléchissent de moins en moins pour les salles de spectacle, mais de plus en plus pour aller à la rencontre des publics. Moi, je crois que l'avenir est là.
Donc rendez-vous, si on veut suivre votre actualité sur votre site. Hein.
www.cie-instant au pluriel.fr.
en attendant de vous retrouver sur scène.
Et on est aussi sur les réseaux sociaux, les Facebook. Notre page Facebook est très, très alimentée. Donc, sur les articles de presse, c'est Compagnie Instant en entier, là. Et vous pouvez aussi suivre l'actualité sur les réseaux sociaux. Et effectivement, moi, j'espère qu'on aura l'occasion de rencontrer à nouveau le grand public très rapidement.
Merci, Hervé.
Merci à vous.
To be